Panorama Info, un regard chrétien sur le monde et sur l'Église. Bienvenue à vous tous, amis auditeurs. Aujourd'hui, dans notre Panorama Info, ce sera une interview que nous réalisons dans nos studios avec la présence de l'abbé Serge Cazanov, que vous connaissez bien, qui est un grand collaborateur de notre radio. Bonjour Père.
Bonjour Nicole, bonjour à tous les auditeurs.
Père, vous avez récemment effectué un voyage, plutôt un pèlerinage, vous nous en direz un peu plus, un pèlerinage en Grèce, sur les traces de Saint Paul, organisé par le service de pèlerinage diocésain de Corse, bien sûr.
Oui, c'est bien ça, voilà. Nous étions 44, de 21 de la Haute-Corse et donc 23 de la Corse du Sud, sous la direction de Madame Aline Castellane, qui est la directrice des pèlerinages pour le diocèse, assistée de son équipe, qui l'aide donc tous les mercredis à l'évêché à recevoir donc les inscriptions. Voilà, nous sommes partis le lundi 16 sur les pas de Saint Paul en Grèce et nous sommes revenus le lundi 23 septembre.
Oui, donc c'est un temps quand même assez long. Il y a différentes étapes très certainement magnifiques que vous allez un petit peu nous rapporter. Alors, deux points, je vous invite, Père Serge, pour bien déjà nous dire les grâces d'un pèlerinage, hein, en quoi pour nous c'est important aussi de pouvoir effectuer ces pèlerinages. Le pèlerinage, c'est très ancien comme dévotion, comme mode aussi d'expression de notre foi dans l'histoire de l'Église. Et dans l'Ancien Testament déjà, on avait les pèlerinages, notamment à Jérusalem. Donc, quel est l'intérêt d'un pèlerinage et plus particulièrement, quels sont un petit peu les fruits ou en tout cas les grâces, les étapes, qu'est-ce qui a pu être éclairant dans les différentes étapes que vous avez vues à travers aussi donc, l'apôtre des nations, hein, Saint Paul.
Alors les pèlerinages, oui, c'est une pratique très ancienne dans l'Église et dans toutes les religions, peut-on dire. Et donc c'est sortir de chez soi pour aller prier chez les autres, dans des lieux sanctifiés par la présence d'un saint ou du Christ. Et donc là, c'était sur les pas de Saint Paul, parce que c'est une manière aussi de revigorer, de rajeunir la foi des participants. Parce que pendant 8 jours, on se livre à des exercices spirituels, la messe, les laudes dans le car. Tout ça, ça contribue à forger une écoute plus profonde de la parole de Dieu sur les lieux mêmes où ça s'est vécu. Et donc nous sommes passés effectivement dans des villes où Saint Paul s'est tenu en personne, quoi. Et les fruits, eh bien, les fruits sont à attendre, non pas forcément sur le moment, sur le coup, mais en revenant. Je crois que la prière puissante de Saint Paul, comme des saints que nous avons pu visiter dans les monastères orthodoxes, tout cela contribue à des fruits certainement abondants qui ne se vérifient que les jours passants et les semaines passant. Nous pouvons voir ces effets-là spirituels se déployer dans nos vies.
Alors Père, à travers quelques étapes que vous allez nous relater, et vous allez aussi nous inviter à découvrir cet apôtre, qui est l'apôtre quand même, une des colonnes de l'Église, hein, Saint Paul, donc, et à travers aussi ses lettres, ce qu'il a écrit, etc., dans les endroits que vous avez visités. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce périple ?
Voilà, alors justement, comme on était sur les pas de Saint Paul, notre pèlerinage ne concerne que la Grèce continentale, parce que la Grèce est multiple, il y a aussi la Grèce des îles, avec des centaines d'îles. Mais nous sommes cantonnés sur la Macédoine, donc 2 jours, les 2 premiers jours, et Corinthe et Athènes les 2 derniers jours. Donc ça fait qu'on a allié, bien sûr, le religieux avec le culturel. Il y a eu des passages par Delphes, par exemple, par Vergina, le tombeau de Philippe II de Macédoine. Voilà. Alors tout a commencé par Philippe et le baptistère de Lydie. En plein air, nous avons célébré la messe. C'est un très beau site. Et donc, c'est là que tout a commencé pour la chrétienté européenne, puisque vous savez que c'est à la suite d'une vision de Paul, pendant qu'il était à Troas, une vision d'un Macédonien lui disant « passe la mer, viens à notre secours », que tout a commencé. Donc, le site est un site œcuménique, très très beau, avec un baptistère moderne, orné de superbes mosaïques qui évoquent donc Paul, mais aussi Lydie et les saints en honneur dans la région. Donc là, nous avons célébré le premier jour, le mardi. L'après-midi, alors à midi, nous avons déjeuné à Cavala. Cavala, ça veut dire cheval. C'est ni plus ni moins l'ancienne Néapolis, là où Paul a abordé. Et nous avons visité aussi le matin, après le baptistère, le site de Philippe, la ville de Philippe, qui est aujourd'hui en ruine. Mais là, donc, nous sommes sûrs que Paul s'est tenu sur l'agora. On a vu essentiellement le théâtre et la citerne où la tradition dit que l'apôtre Paul a été tenu captif. Et l'après-midi, donc toujours notre étape macédonienne, nous avons visité Thessalonique. Alors oui, comme vous disiez, il y a les lettres, la lettre à Philippe, aux Philippiens, les deux lettres aux Thessaloniciens, nous les avons évoquées à travers... La première qui parle de la vie éternelle, saint Paul répondant aux questions des chrétiens. Les épîtres de Paul sont tous des écrits de circonstances, c'est-à-dire que certainement que l'apôtre faisait la catéchèse en fonction de ce que nous recueillons dans l'évangile canonique de saint Luc, mais quand il écrit aux communautés, il écrit tout à fait indépendamment de ce qu'il faisait sa catéchèse ordinaire, puisqu'il répond à des questions précises que lui posaient les premiers chrétiens. Voilà. Et donc, à Thessalonique, nous avons pu voir, premier contact avec l'Église orthodoxe, le tombeau de saint Dimitrios, un saint militaire, un militaire martyr des premiers siècles. Voilà, nous avons pu vénérer son tombeau. Ensuite, deuxième, troisième et quatrième jour, c'était plus des étapes culturelles. Alors d'abord, nous avons été à Béret le matin du mercredi. Nous avons vu une sorte d'hôtel en plein air qui est le témoignage du passage de Paul à Béret. La ville s'appelle aujourd'hui Veria. Et surtout, donc, nous avons été à Vergina, l'ancienne Égée, qui était la capitale du royaume de Macédoine, du temps de Philippe, le père d'Alexandre le Grand. Et donc nous avons visité le tombeau de Philippe de Macédoine d'une manière restaurée, d'une manière vraiment éblouissante, avec tous les objets de la vie quotidienne du palais qui étaient là, donc qui étaient recueillis dans le tombeau du roi. Et puis, nous avons poussé plus loin, nous avons une rencontre originale avec des religieuses orthodoxes dans un monastère. L'endroit s'appelait Kondariotissa et nous avons mangé un repas de jeûne, mais qui était vraiment un repas abondant pour le groupe. Et l'après-midi, donc, nous sommes partis pour les Météores. Les Météores, c'est le plus grand ensemble de monastères de la Grèce après le mont Athos. C'est un site vraiment éblouissant, très particulier par sa configuration.
Ça se présente comme une météore, en fait, c'est
voilà,
ça. Hein,
c'est ça, ouais.
C'est des montagnes suspendues, presque, des rochers suspendus.
Voilà. Et donc, les moines ont eu l'idée de s'y réfugier à la fin du 9e ou au début du 10e siècle. Ils ont d'abord vécu comme ermites. Et à la fin du 13e, au début du 14e siècle, ils ont construit carrément des monastères. Il y en a eu jusqu'à 24. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 6 habités. Dont un de femmes, Saint-Étienne, c'est celui que nous avons visité quant à nous, mais il y en a d'autres, il y a la Transfiguration, il y a la Sainte-Trinité, Saint-Nicolas, etc. Et donc un site vraiment très très beau, vraiment un site géographique particulier. Donc ensuite nous avons poursuivi avec la visite avec un atelier d'icônes d'un pope orthodoxe et nous avons vu une petite entreprise familiale, parce qu'il y avait là le fils aîné de ce pope qui nous a reçus. Alors, c'était l'occasion pour les pèlerins de faire des emplettes d'icônes de toutes sortes de tailles. Voilà. Et puis, après le déjeuner à Tricala, nous sommes mis en route pour Delphes. Donc, c'est donc le vendredi que nous avons commencé par la visite du site de Delphes, qui pour les Grecs était un site sacré. Dans les Grecs de l'Antiquité, c'était le centre du monde, l'ombilique hein, du monde, et un lieu de culte consacré à Apollon. Toutes les cités grecques avaient été représentées par une salle où ils déposaient des ex-voto précieux après les batailles, après les événements marquants des cités-États, puisque la Grèce antique était composée de cités-États dans le sud et d'un royaume au IVe siècle au nord, le royaume de Philippe et d'Alexandre, la Macédoine. Donc, tout cela, donc, c'était le vendredi. Et puis, nous avons poussé jusqu'à encore un monastère orthodoxe, Osios Lucas. En grec, ça veut dire Osios, ça veut dire bienheureux. Lucas, c'est Luc. Et donc, c'est un monastère fondé par un saint grec qui a commencé donc, comme étant valet de ferme, le bienheureux Luc. Les catholiques l'appellent plutôt Saint Luc le Jeune, les Grecs Osios Lucas. Et donc, il s'est fait moine à Athènes et il est revenu dans son village où il a fondé ce monastère. Et il y a eu tellement et tellement de guérisons de son vivant qu'on a appelé ce lieu « lieu de guérison », Sotérion en grec. Hein. Et aujourd'hui, donc, c'est connu sous le nom d'Osios Lucas. Et le monastère est réputé parce que c'est un magnifique exemple de l'art de la mosaïque en Grèce au XIe siècle. Les empereurs byzantins avaient fait construire une église à côté de celle plus petite construite par le bienheureux de son vivant et l'ont ornée de magnifiques mosaïques qui sont toujours en place. Voilà. Et l'après-midi, donc, nous sommes partis pour Corinthe. Et donc, nous avons visité le samedi matin, le 21 septembre, le site de l'ancienne Corinthe avec le temple d'Apollon, l'agora où Paul s'est tenu devant le proconsul Gallion. Gallion qui était d'ailleurs, entre parenthèses, le frère de Sénèque qui a été exilé en Corse. On montre à Lourdes la tour de Sénèque. Bon, c'est probablement pas là qu'il a été déporté, mais c'est un personnage, un philosophe stoïcien qui a un lien avec notre île. Donc, après Corinthe, nous avons été jusqu'à Épidaure et nous avons visité surtout le théâtre qui a une acoustique prodigieuse. Et c'était un lieu de guérison, mais alors de l'époque païenne, puisqu'on y vénérait Asclépios, le dieu de la médecine. Et donc, dans ce théâtre qui a une acoustique parfaite, un murmure prononcé au bas de la scène s'entend jusqu'au sommet. Et ça faisait partie de l'itinéraire de guérison proposé aux malades de l'époque. Le théâtre comme étant un lieu de libération des émotions. Et puis, il y avait d'autres exercices plus physiques pour assurer une guérison. Alors, c'était avec les moyens de l'époque, hein, bien sûr, mais c'était un premier effort. Et donc, sur le retour, nous sommes passés à Sancré, l'antique Sancré, où Paul a quitté la Grèce pour Éphèse, la ville de Phébé, la fameuse diaconesse, et puis le canal de Corinthe, qui a été réalisé qu'à la fin du XIXe siècle. On a commencé à le percer du vivant de Néron, mais les travaux n'ont pas été poursuivis. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que ce canal, permettant de joindre le golfe de Corinthe et la mer Égée, a été réalisé, et sur 6 kilomètres. Donc voilà, et c'est ainsi que nous sommes arrivés le samedi soir à Athènes. Voilà. Alors ça, c'est les trois jours qui ont été vraiment plutôt culturels, hein, à l'exception de la visite des monastères, Osios Lucas, voilà. Mais nous avons retrouvé, donc, en arrivant à Athènes, Paul, qui était notre guide et notre fil conducteur de ce voyage. Et donc, ça a été, après la visite de l'Acropole le matin, le passage à l'Aréopage, où Paul a prononcé un discours très important, et où il a cherché à faire la synthèse entre la culture grecque et la pensée juive.
Ça, on le trouve dans les Actes des Apôtres.
C'est ça, oui, au chapitre 17. Et donc nous avons surtout visité l'Acropole, qui est un itinéraire proposé à tous les touristes. Il y avait d'ailleurs ce dimanche matin, il y avait beaucoup de Français, on entendait beaucoup parler français, ce qui ne nous était pas arrivé dans les autres sites. Et après, la visite à l'aéropage, c'est un rocher très glissant, donc comme beaucoup d'entre nous étant déjà d'un âge vénérable, on ne s'est pas avancé sur le rocher, mais on a lu le texte du discours de Paul à l'aréopage. Et puis, donc, on a pris un temps libre pour que, dans le quartier pittoresque de la Placa, autour de la cathédrale d'Athènes, la cathédrale qui est orthodoxe, qui est dédiée à l'Annonciation, tandis que la cathédrale catholique est dédiée à Saint-Denis, l'un des seuls premiers chrétiens, parce que le discours de Paul n'a pas eu vraiment de retentissement à part une femme, Damaris et ce Denis. Voilà. Et le dimanche, ça c'était le dimanche, nous avons eu la messe chez les pères jésuites l'après-midi, et nous avons conclu notre voyage le lundi 23 septembre, à la cathédrale Saint-Denis, à la cathédrale catholique d'Athènes, par la messe en la mémoire de Saint Pio de Pietrelcina.
Ah oui, les saints sont fêtés dans le monde entier.
C'est ça.
Alors, Père, pour revenir à Saint Paul, donc, qui vous a accompagné durant ce pèlerinage, notamment vous parliez d'Athènes. Bon, Athènes, à part cet épisode de l'aréopage, il n'y a pas de lettres qui concernent particulièrement les Athéniens, hein. Donc dans ces grandes villes. Qu'est-ce qui est ressorti un peu justement de ce personnage, hein, de Saint Paul, à travers aussi les sites que vous avez pu, de vos yeux, contempler, voir, etc.
Oui. Il y a une mise en situation des lieux où ont vécu ces premières communautés chrétiennes, à Philippe, Thessalonique et Corinthe surtout. Une évocation du personnage, parce que Saint Paul, c'est un géant de la sainteté. Hein. Comment un persécuteur peut-il devenir le plus grand missionnaire de tous les temps, hein. Après, c'est un homme d'une culture élevée. C'est un théologien de haut vol, parfaitement bilingue. Le Seigneur a choisi Paul pas pour rien. Après le groupe des apôtres qui étaient pêcheurs en Galilée, qui étaient publicains pour Lévi Matthieu, le Seigneur a permis à quelqu'un qui était parfait connaisseur de la culture juive et qui avait un pied dans le monde grec, de faire la synthèse de ces deux courants et ce qui est à la base de la culture européenne. Même si je sais, ça fait des irruptions de boutons à certains, le christianisme a quand même compté pour quelque chose dans l'histoire de ce continent, qui n'aurait pas dû exister en tant que quantité, parce que il n'a aucune frontière géographique, bon, à part l'Oural à l'est, mais rien ne le destinait, avec ce vaste ensemble de plaines, de steppes, à avoir une unité. Or, le christianisme a forgé une unité à ce continent. Aujourd'hui, même si nous sommes divisés entre orthodoxes, catholiques et protestants, il n'empêche que le fond commun, il est là. Donc tout ça, nous le devons à Saint Paul. Nous le devons à Saint Paul. En plus, il est l'apôtre des nations. Alors on a évoqué quelques thèmes des épîtres pauliniennes, mais on ne pouvait pas tout voir, c'était difficile. En plus, notre guide était passionnante et elle nous apprenait plein de choses. Mais quand on a pu vraiment s'arrêter, on a considéré surtout Paul en lui-même. On a lu les passages de l'apologie de Paul dans la deuxième aux Corinthiens, par exemple. On a cherché à évoquer cette mystérieuse épine dans la chair dont il parle dans la deuxième aux Corinthiens, pour laquelle Daniel Marguera commence, dans son dernier livre, à une opinion nouvelle sur cette question. On a cherché.
Alors ce serait laquelle cette...
Alors là, vous prenez un peu au dépourvu, mais c'est ni la malaria ni l'épilepsie. Il y avait avec nous un médecin qui me disait oui, l'épilepsie, mais l'épilepsie ne rend pas aveugle. Or, au moment de la conversion, il est resté aveugle 3 jours jusqu'à ce que Anani lui impose les mains et le baptise. Il faudrait reprendre les épîtres, mais il y a un détail dans l'une ou l'autre épître qui met sur la piste d'une autre possibilité. Voilà. Ce n'est pas tranché, ça reste quand même mystérieux, mais ça écarterait les thèses traditionnelles.
D'accord. On y reviendra peut-être dans une prochaine émission.
Oui, si vous voulez.
Très bien. Et au niveau même du groupe, donc, vous avez senti quand même parmi tous les participants un émerveillement devant ce qu'ils découvraient, que ce soit au niveau déjà de la beauté hein, des lieux, parce que bon, c'est beau, c'est tout court, mais c'est beau. Mais aussi d'être touché par justement cette présence de Saint Paul et puis du christianisme, en fait. Hein, parce que voilà, ce sont des... Et qu'en est-il pour vous, après avoir fait ce petit périple, de l'Église, justement, chrétienne, hein, en Grèce? Bien sûr, c'est l'Église orthodoxe qui domine, mais il y a aussi l'Église catholique. Quelle a été votre perception un petit peu sur... sur l'aujourd'hui.
Alors, ça a été la communication d'un lazariste le premier soir à la cathédrale de Thessalonique, où nous avons eu la messe le lundi soir en arrivant. Les catholiques représentent 0,033% de la population. Ils sont, pour une grande part, un reste du passage des Vénitiens au XIIIe siècle et des Génois aussi, qui ont occupé les îles. Voilà, mais vraiment une très petite communauté. Il y a 4 diocèses. Il y a la partie ouest avec l'île de Corfou. Il y a les îles. Et puis, il y a Thessalonique au nord et Athènes au sud. Voilà, il y a 4 évêques catholiques. Voilà. Les relations, nous, on n'a pas pu célébrer dans les églises orthodoxes. On a dû célébrer dans les hôtels. Ça, c'était la partie la moins enviable pour le prêtre, parce que... Mais toujours entouré d'un grand respect de la part des hôteliers grecs qui nous recevaient. Mais voilà, il n'y a pas de réciprocité. Nous, on prête nos églises pour les communautés orthodoxes présentes en Occident, mais il n'y a pas vraiment de réciprocité. Après, donc, ils sont assez raides. On a vu ce que j'ai pu voir, c'est lors de l'entrevue après le repas chez les sœurs. Donc, c'était à Kondariotissa. On a eu une entrevue avec un évêque missionnaire, qui est un évêque orthodoxe, qui est en poste en Colombie et au Venezuela. Et il était accompagné d'un jeune diacre colombien. Et puis la sœur qui nous servait à table, c'était une novice aussi de Colombie. Donc on voit que c'est une église qui, comme l'église catholique au XIXe siècle, maintenant essaie de se répandre à l'extérieur de l'Europe. Apparemment, elle y arrive bien. Elle essaie aussi avec une théologie monastique très forte. Ils sont marqués par le monachisme, hein, beaucoup plus que l'Église catholique. Et ma foi, ils ne répugneraient pas à accueillir des catholiques en leur sein, quoi. Hein.
Ah, d'accord. Voilà.
Donc, ça, c'est la réalité que bien humblement, j'ai pu voir. Hein. Mais voilà, donc, c'est leur... C'est leur position présente. Après, comme nous, ils sont frappés de plein fouet par la sécularisation, la déchristianisation. Même en Grèce, les jeunes couples se marient ou divorcent, ou vivent en concubinage. On sent bien que les règles de la réception de la communion sont très, très strictes. Il faut être pratiquement à jeun depuis un jour. Beaucoup, du coup, ne font pas la communion. C'est une église qui est héritière d'une belle tradition, mais qui, du coup, aussi a quelques difficultés à s'adapter à la modernité, quoi. Et voilà ce qu'on peut dire.
L'ensemble des participants étaient contents, satisfaits.
Alors
de leur...
oui, alors notre groupe, de l'avis même de la guide, elle a retrouvé l'esprit des Grecs quand ils vont voyager. Les Corses qui étaient là, donc, elle m'a dit, ce sont des gens qui ont du cœur. Et sans le cœur, tout ce qu'on peut dire de savant sur les Écritures, sur saint Paul, etc., resterait de l'eau sur la plume d'un canard. Or là, s'il y avait matière, parce que s'il y avait du cœur, voilà. C'était déjà une religion, des personnes qui avaient quand même une relation à Jésus, une relation de cœur à cœur, et qui fait que elles ont pu profiter pleinement de, je pense, de ce voyage, de ce que modestement j'ai essayé de leur apporter sur saint Paul, parce que il y avait quelque chose, voilà, à la base. Plus difficile, et quand un groupe arrive qui n'a pas de racines, tout ça peut être vraiment des paroles savantes de la théologie, même ça peut être scientifique, mais ça n'atteindra pas la vie. Ça n'atteindra pas la vie. Et de l'avis de la guide elle-même, elle a trouvé que ce groupe avait du cœur et que ce qu'on avait pu dire et vivre ensemble avait trouvé racine.
Bien, merci Père Serge, ça donne vraiment envie de nous mettre sur les traces de saint Paul, en tout cas de participer à un prochain pèlerinage, j'espère. Et puis on en profite aussi pour annoncer que le prochain pèlerinage diocésain, bien, ça concernera bien sûr l'année du jubilé en 2025, donc ce sera à Rome.
Du 15 au 19 mai.
Du 15 au 19 mai. Avec, ce sera à Civitave, qui est en quelque sorte le port de Rome, enfin à quelques kilomètres quand même. Et donc pour plus de renseignements, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site de diocésain ou téléphoner à l'évêché au service des pèlerinages. Il reste encore des places, donc voilà, il faut en profiter pour tous ceux qui le peuvent. Père Serge, c'est très intéressant. J'espère que vous aussi, vous avez pu apprécier. C'était la première fois pour vous aussi.
Ah oui, je ne connaissais pas la Grèce, non.
Donc, et puis, étant curé de Saint-Paul, c'était bien, bien à propos de pouvoir se rendre sur ces lieux aussi, sur le lieu où il a.
C'est fait que maintenant, je prêcherai sur la deuxième lecture avec un peu plus de conviction.
Et puis, une bonne vision aussi des lieux, voilà. Merci Père, on se retrouve en tout cas très vite sur nos ondes pour l'émission Les Pères, lire la Bible avec les Pères de l'Église. D'ailleurs, parmi les Pères de l'Église, il y a de nombreux Pères grecs qui ont fondé aussi
des génies de l'humanité.
Merci Père. Peut-être un dernier mot de la fin de ce voyage, qu'est-ce qui vous reste de dire peut-être
Non, bien écoutez... Je recommande la pratique des pèlerinages parce que c'est vrai que le fait de sortir de chez soi, de se confronter à la parole de Dieu dans des lieux de grâce, c'est toujours fructueux pour la vie spirituelle. Ça renouvelle la vie spirituelle et on en a besoin. On en a besoin parce que être chrétien aujourd'hui, c'est pas évident dans un monde comme le nôtre. Et donc, j'encourage les gens qui nous écoutent, qui peuvent faire un pèlerinage, à le faire. C'est différent, la démarche est différente que d'un voyage touristique, parce que y a la prière, comme on disait, il y a les laudes, il y a la messe, il y a des enseignements. Mais tout ça est vécu dans la joie, et donc c'est une expérience positive. Je pense que les gens qui étaient là, aucun n'est revenu en boudant ou en étant mécontent.
Voilà, oui, parce qu'il y a toujours la communion aussi qui est donnée à ce moment-là, bien sûr. Merci Père. On va se quitter avec justement un chant grec orthodoxe.
Voilà, on propose d'écouter Ti Permao Stratigo. C'est l'équivalent du Salve Regina pour les catholiques. C'est un chant très cher au cœur des orthodoxes. Il est chanté le vendredi pendant le Grand Carême. Et c'est ni plus ni moins l'hymne antique de l'Empire byzantin. C'était qui implore la protection de la Vierge sur la cité de Constantinople.